Et nous faisons notre part ce matin pour faire que ce chant retentisse en tout lieu, parce qu'il retentit ici. Et veuillez que ce soit le cas dans d'autres lieux et également. Je suis convaincu que ce le sera. Il y a des églises fidèles à travers le monde qui aujourd'hui vont élever leur voix à Dieu dans la louange, dans la prière. Et puis, il y a aussi des églises qui vont ouvrir la parole. Et c'est ce que nous allons faire également ici, dans la deuxième épître aux Corinthiens. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5. Nous allons examiner les 10 premiers versets de ce chapitre. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, les 10 premiers versets. Paul a écrit plus de chapitres aux Corinthiens que n'importe quelle église, du moins de ce que nous avons dans la Bible. Il avait vraiment à cœur cette église malgré ses problèmes. Et les problèmes de l'église de Corinthe étaient assez nombreux. Et Paul voyait du progrès chez eux. D'ailleurs, il relève dans la deuxième épître, cette seconde lettre, il les félicite pour leur progrès. En même temps, il y avait encore des choses à corriger. Et ici, dans ce chapitre 5, les 10 premiers versets, Paul, il va parler de l'avenir. Et il va montrer quelle doit être notre perspective aujourd'hui avec l'avenir qui nous est réservé. Alors, suivez avec moi, alors que je fais la lecture de ces 10 premiers versets, 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Jusqu'au verset 10. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car si nous marchons pas, car nous marchons par la foi, et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Prions. S'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te remettons ces quelques instants que nous passons dans ta parole, que tu nous éclaires par ta puissance, que ta parole puisse toucher notre cœur, trouve un terrain fertile, qu'il n'y ait pas d'obstacle à ce que toi tu veux accomplir dans la vie de chacun de nous, et que toute la gloire te revienne parce que c'est toi qui l'auras fait. En ton nom, nous prions. Amen. Ici, Paul, il y a pratiquement 2000 ans, reconnaît quelque chose, un ensemble de choses, mais une chose principale que nous reconnaissons encore aujourd'hui. Paul reconnaît que la vie est difficile. Et là, on va dire, mais c'est la plus grande évidence du monde, n'est-ce pas ? La vie ici sur la terre, elle est difficile, même pour les chrétiens. Et lorsque Paul, au verset 1, va parler de cette tente, bien sûr, il n'est pas en train de parler d'une toile qu'on aurait mis quelque part, dormir à la belle étoile, comme on dit, être sous la tente. Non, non, il est en train de parler de notre corps physique. N'est-ce pas? Quelque chose de temporaire. Et Paul reconnaît qu'il y a des difficultés. Et Paul avait déjà expliqué dans la première épître, il le répète dans cette deuxième épître, que lui-même il a souffert, que sa vie était bien difficile, il avait beaucoup d'obstacles de l'extérieur. Il parle de tous les soucis de l'Église, il parle même de l'intérieur, la lutte en lui. Il faisait des choses qu'il ne voulait pas, il ne faisait pas des choses qu'il voulait, il y avait cet tiraillement en lui. Il parle de gémir, ici à plusieurs reprises dans ce passage, verset 2, « Nous aussi gémissons-nous » verset 4, « Nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. » Donc Paul, il était humain, comme vous et moi, il reconnaît que cette vie, elle est difficile, et il reconnaît en tant qu'enfant de Dieu qu'il y a de façon légitime ce désir d'être avec Dieu, n'est-ce pas? Même aux Philippiens, Paul va dire « Mon aller et être avec le Seigneur serait de loin le meilleur. » Et avec cela, on peut tous dire « Amen », n'est-ce pas? Nous en aller, être auprès de Dieu, quitter ce monde à la fois de souffrance, de troubles, d'incertitude et tout, serait de loin le meilleur. Et pourtant, avec cette perspective, Paul reconnaît que on ne peut pas totalement et uniquement focaliser sur l'avenir. Non, ce n'est pas possible. Parce que notre vie aujourd'hui est importante. Notre vie aujourd'hui est importante. Et Paul en veut pour preuve à verset 5 ce qu'il va dire. Regardez, verset 5. Celui qui nous a formés pour cela. Ben, pourquoi? Eh bien, oui, être au ciel avec Dieu, mais notre vie ici sur la terre, aussi passagère qu'elle soit, aussi difficile qu'elle soit, avec tous les obstacles, toutes les incertitudes, tous les problèmes que nous pourrions avoir, finalement, cette vie, elle vient de Dieu. Vous le savez, mais je tiens à le répéter, notre vie n'est pas le fruit du hasard. Nous ne descendons pas du singe. Et qu'est-ce que j'en suis content. Vous savez, ceux qui veulent absolument qu'on soit des êtres évolués, je ne les comprends pas. Quand il y a l'explication de la Bible que nous sommes la créature spéciale de Dieu, vous me donnez le choix, descendre soit du singe ou de quelques molécules, atomes qui, par un heureux coup du sort, seraient arrivés ensemble. Et entre ça et puis la créature spéciale de Dieu, ben, croyez-moi, moi je veux m'attacher à cette vérité que je suis la créature de Dieu. Parce que la Bible le dit. Dieu nous a formés non seulement pour avoir une destinée éternelle, mais Dieu nous a formés pour vivre notre vie aujourd'hui, 21e siècle, à Vernon, partout où il nous a placés. La vie que nous avons n'est pas une erreur. Ne laissez personne dire le contraire. Notre vie aujourd'hui a un sens. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu. Dieu nous a formés non seulement pour l'avenir, mais pour aujourd'hui. Et Paul reconnaît qu'il est légitime, même si notre vie aujourd'hui sur la terre est voulue de Dieu, et que nous avons été formés par Dieu pour cela, il reconnaît qu'il est tout à fait légitime de désirer être avec Dieu. Ne nous culpabilisons pas si nous avons le désir d'aller, de nous en aller et d'être auprès de Dieu. Paul reconnaît, revenons au verset 1, « Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, » là il parle de la mort physique, dans d'autres passages il va parler de cette dégradation que nous connaissons tous. Alors, vendredi, avec Patrick, Ethan et Mathis, nous sommes allés faire une randonnée de 34 kilomètres. Et je peux vous dire qu'à la fin, j'avais mal. J'avais encore mal hier. Je le sens un tout petit peu ce matin, mais ça va beaucoup mieux. Okay. C'était dur. Et là, on comprend la faiblesse, on comprend cette tente qui s'affaiblit. Okay. Et Paul, il reconnaît cela. Il dit, si il y a cette tente qui peut être détruite, Verset 2, nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Verset 4, nous gémissons accablés. Dans d'autres passages, il va parler effectivement des persécutions et tout. Et aujourd'hui, eh ben, à cause de nos propres choix, à cause des choix des autres, nous sommes parfois bloqués, nous sommes dans des situations difficiles. Notre corps nous fait défaut par moments. On n'est plus aussi jeune qu'on était. Et à cause de tout cela, il est tout à fait normal, et encore une fois, ne nous culpabilisons pas pour cela, il est normal de vouloir être auprès de Dieu. Si vous avez le désir de quitter ce monde et de dire « je veux être avec Dieu maintenant », quelque part ce désir est normal. Alors par contre, attention, qu'il soit clairement dit, ne hâtons pas ce processus. Okay? Ne devançons pas Dieu. Okay? Dieu, il a un moment pour qu'on quitte ce monde et qu'on aille auprès de lui. Et ce n'est pas à nous d'accélérer ce processus. Okay? Il n'est pas à nous non plus de le retarder le plus possible. Hein? Aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas Dieu essaient de retarder la mort le plus possible. Essayez d'éloigner cela le plus possible jusqu'à se faire congeler à leur mort dans l'espérance qu'un jour, quand la technologie serait assez évoluée, qu'on puisse les réanimer et qu'ils puissent revenir à la vie. Il y a des gens qui réellement font ça, je vous assure. Okay? Et ça coûte énormément d'argent. Okay? Donc c'est complètement ridicule. Mais il y a des gens qui le font. Parce que la mort, eh ben, les gens du monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu, veulent éviter cela à tout prix. Et même les chrétiens, malheureusement, peuvent tomber dans ce travers de dire, eh ben, ma vie, j'y tiens. Et je veux qu'elle dure aussi longtemps que possible, peu importe ce que Dieu a prévu pour moi. Donc cet extrême-là est à éviter. L'autre extrême est à éviter également, et c'est cet extrême-là dont Paul parle ici, que la vie soit tellement dure qu'on se dit, je n'en peux plus, Dieu, je vais être auprès de toi, alors je vais accélérer le processus. Ça, c'est pas bon, c'est pas biblique. Paul dit, le désir d'être avec Dieu est tout à fait légitime. Mais il faut être soumis à Dieu et son temps pour quand il nous rappellera à lui. Il dit, verset 2, « Désirant revêtir notre domicile céleste, c'est-à-dire le corps glorifié dont il avait déjà parlé dans la première épître aux Corinthiens chapitre 15, en parlant de la résurrection. » Et Paul dit, « Ce désir, nous pouvons l'avoir, rien de mal à cela. » Ne nous culpabilisons pas si nous avons le désir d'être avec Dieu. D'ailleurs, c'est un désir légitime, biblique. Mais en même temps, reconnaissons que c'est Dieu qui contrôle cela. Que s'il nous laisse en vie sur la terre, c'est parce qu'il a encore des choses pour nous à accomplir. Il n'a pas fini avec nous. Donc ici, Paul reconnaît ce tiraillement. Cette lutte qui est là. Et Paul dit, cette vie sur la terre, elle est importante parce qu'elle vient de Dieu, parce que Dieu a encore quelque chose pour nous à accomplir. Et puis, Paul va surtout montrer que cette vie sur la terre, elle est importante parce qu'elle a des conséquences pour l'avenir. Ne tombons pas dans ce travers de croire que nous pouvons agir comme nous voulons, à tous égards ici sur la terre, et qu'une fois arrivé au ciel, c'est comme si tout était effacé, et comme si notre vie sur la terre n'a jamais existé. On remet à zéro tout. Vous savez, parfois sur les appareils, il faut remettre à zéro. Il faut restaurer au point de départ. C'est pas comme ça. Non, regardez verset 10. Paul dit, cette vie sur la terre, elle est importante parce qu'elle a des conséquences pour l'avenir. Il nous faut tous. Okay. C'est moi, c'est vous. Il nous faut tous, et on parle des chrétiens ici, des enfants de Dieu. Il nous faut tous comparaître, ou littéralement être manifeste, voir le jour devant le tribunal de Christ. nous serons examinés à la loupe un jour devant Dieu. Dieu nous voit aujourd'hui, bien sûr, rien n'est caché à ses yeux. Le bien, le mal que nous faisons aujourd'hui, Dieu le voit. Ce n'est pas comme si Dieu, il attend le tribunal de Christ pour nous examiner et tout. Non, non, non. Dieu nous voit aujourd'hui. Mais nous allons comparaître devant Jésus-Christ, ce tribunal de Christ, un jour. Pourquoi ? Eh bien, Paul dit, afin que, il montre le but, afin que chacun, donc tous ceux qui seront là, seront examinés. Alors, est-ce que vous serez là ? Si vous êtes sauvés, oui. Alors, à ce moment-là, vous serez examinés. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étendant son corps. Donc, cette vie sur la terre. Et cela montre que cette vie, elle a des conséquences pour l'avenir. Alors, qu'il soit dit clairement maintenant, bien sûr, le salut n'est pas en question ici. Comme nous avons parlé en première partie ce matin, le salut, une fois qu'on accepte Jésus-Christ par la foi, on ne peut jamais perdre le salut. Pas possible. Mais ici, nous parlons des récompenses que nous pourrions avoir ou ne pas avoir en fonction de ce que nous faisons dans notre vie aujourd'hui. Et Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, va expliquer cela. Nous n'allons pas prendre le temps de regarder ce passage aujourd'hui, mais vous pouvez noter à côté dans votre Bible, ou peut-être si vous avez une Bible avec des chaînes de référence et des renvois, il y a peut-être ce passage-là. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, où Paul va expliquer le fondement, c'est Jésus-Christ. Et on bâtit sur ce fondement avec différents matériaux. Et ces matériaux vont passer par le feu. Et le feu, c'est le tribunal de Christ dont on parle ici. Et si c'est quelque chose qui peut être consumé par le feu, ben, ça va partir en fumée. Et si ce n'est pas quelque chose qui peut être consumé par le feu, ben, c'est quelque chose qui va durer. Ça, c'est la récompense. Et ici, Paul dit, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étendant son corps. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de dire « je ne serai jamais jugé ». L'enfant de Dieu sera jugé, est déjà jugé, mais sera jugé. Mais il faut bien comprendre ceci. Juger dans quel sens ? Puisque souvent nous associons jugement et condamnation. Paul va dire clairement dans Romains chapitre 5, « il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Alors, quand on parle de jugement pour l'enfant de Dieu, ce n'est pas la condamnation. Bien sûr, vous le savez. Mais c'est l'examen. L'examen en profondeur. Donc, un jugement de la part de Dieu sur ses enfants. Et vous qui êtes parents, vous comprenez très bien ceci. Ben, vous examinez ce que vos enfants font. Et soit vous êtes d'accord quand ils font le bien, quand ils obéissent, quand ils sont soumis, quand ça se passe bien. Et vous n'êtes pas d'accord quand ils font le mal, quand ils désobéissent, quand ils se rebellent. Vous jugez dans ce sens, vous examinez, vous n'êtes pas indifférent et c'est normal. Et ici, Paul dit, chaque enfant de Dieu comparaîtra devant le tribunal de Christ dans le but spécifique d'être examiné sur la base de ce que lui, il a fait dans sa vie. Soit le bien, soit le mal. Ce n'est pas uniquement le bien. Dieu ne fera pas uniquement des félicitations. « Ah, tu as bien fait là et là et là. » Il va dire aussi, « Mais là, mon enfant, qu'est-ce que tu as fait ?» Et ici, Paul dit, « On va recevoir selon le bien ou le mal qu'il aura fait. » Alors, recevoir le bien, on comprend très bien, des récompenses. Okay? Comme Paul il va le dire dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 3, ces pierres précieuses et tout qui va rester, ben, ça on comprend, recevoir le bien, mais recevoir le mal. Là, quand Paul dit, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. qu'est-ce que Paul entend par cela? Est-ce qu'il y a une sorte de jugement comme Dieu va, quand il va nous montrer toute notre vie, il va nous féliciter, nous donner des récompenses pour le bien, et puis il va nous taper sur la tête pour les choses qu'on n'a pas bien fait? Ah ben non. Non. Parce qu'encore une fois, ce verset de Romains chapitre 5, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes en Jésus-Christ aujourd'hui, aucune condamnation ne vous attend. Par contre, lorsque, à l'examen de Dieu, nos œuvres qui seront exposées vont brûler, quand les mauvaises œuvres vont brûler, je vous prie de croire que ce sera un moment de tristesse. Ce sera un moment, on peut dire, de souffrance quelque part, parce qu'on se dit, mais tout cela part en fumée. Il ne reste rien de toutes ces choses que peut-être j'aurais pensé que je serais récompensé. Et il ne me reste peut-être juste une petite poignée de bonnes œuvres qui sont retenues. Un moment de tristesse, c'est la grande découverte pour nous. C'est l'heure de vérité, comme on peut le dire. On peut se tromper nous-mêmes, mais Dieu, lui, on ne peut pas le tromper. Il voit exactement comment c'est. Et c'est sur la base de ce que nous avons fait aujourd'hui, le 26 août 2018. Ce que nous faisons aujourd'hui aura un impact sur cet examen qui sera fait devant le tribunal de Christ. Lorsque nous pensons à cela, comme Paul va dire dans un autre passage, combien notre vie doit être sainte aujourd'hui. Bien sûr, le salut assuré, gloire à Dieu, rien ne peut changer cela, mais est-ce que nous vivons aujourd'hui ce salut? Est-ce que nous vivons avec cette perspective qu'un jour, nous serons devant Dieu, et là, tout sera exposé? Là, on ne pourra rien cacher. Et dans Apocalypse chapitre 21, il y a un verset qui parle de Dieu qui essuie toutes larmes de leurs yeux. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que Dieu sera obligé de faire cela, puisque ses enfants qui seront passés par le tribunal de Christ seront dans les larmes, dans la tristesse, pour toutes les choses qui seront parties en fumée, qu'ils auraient tellement voulu garder pour pouvoir donner à Dieu, mais là, ils ne peuvent pas. Ces larmes, en partie, que Dieu va essuyer, je suis convaincu, viendra de cela. Et Paul dit, personne ne sera exempt de cela. Je ne suis pas l'exception. Ah, tous les autres auront à répondre devant Dieu, mais pas moi. Ah non. La justice des hommes peut faire cela. Les grands de ce monde, eh ben, parfois, on les laisse partir. On dit, bah, parce que c'est tel ou tel personnage, on ne va pas le juger. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Chacun, aujourd'hui, chaque enfant de Dieu aura à répondre devant Dieu pour ce qu'il fait aujourd'hui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce ne sera pas simplement les félicitations pour les bonnes choses que nous aurions fait pour Dieu, mais aussi ce sera les mauvaises choses qui vont partir en fumée, que nous aurions voulu donner à Dieu, mais que nous ne pouvons pas. Et c'est là où, avec cette perspective à l'esprit, nous remontons au verset 6. Parce que c'est dans ce contexte-là que Paul, il va répéter une phrase qui est très importante. Nous sommes donc, alors sur la base de ce qu'il a déjà dit, toujours plein de confiance. Verset 8, nous sommes plein de confiance. Cela m'a intrigué alors que j'examinais ce passage. Dans ces deux versets, Paul répète cette phrase, plein de confiance, rempli d'assurance, de confiance. Ailleurs, il va parler d'être inébranlable. Mais qu'est-ce qui donne cette confiance, puisque nous sommes dans un monde hostile, nous sommes dans un monde de péché, nous avons encore le péché en nous? on ne fait pas les choses que Dieu demande de nous parfois. On fait des choses que lui, il déteste, qu'il hait, dont il a en horreur. Alors, d'où vient la confiance, cette entière confiance que Paul il a au milieu de toute cette incertitude? Son tiraillement intérieur de vouloir être avec Dieu, mais de rester ici sur la terre, de voir tout le travail qui est devant lui, de voir tout ce qui l'entoure, qu'est-ce qui donne la confiance à Paul? On peut se dire, mais c'est impossible. Impossible d'avoir la confiance aujourd'hui. Il y a trop d'inconnus, trop d'incertitudes. Et pourtant, Paul dit, nous sommes pleins de confiance. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que Dieu est à l'œuvre. Il reconnaît que Dieu n'est pas passif, Dieu n'est pas inactif, mais que Dieu est à l'œuvre. Et verset 5, celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu il a fait? Spécifiquement, Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Alors, des arts, si vous ne le savez pas, cette ancienne façon de donner un apport, en fait, dans la perspective, quand on achetait quelque chose, dans la perspective de donner la totalité de la somme par la suite. On pouvait déjà entrer en possession, mais on n'avait pas donné la totalité. Notamment, c'était pour des grands achats, soit de champs, de matériel ou autre. Et ici, Paul explique pour ces chrétiens que Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Le Saint-Esprit est donné à chaque enfant de Dieu, sans exception, et ne sera jamais retiré, parce que le Saint-Esprit est la preuve de la part de Dieu que Dieu va accomplir tout ce qu'il a promis. Si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, vous avez le Saint-Esprit en vous. Et le Saint-Esprit est la preuve que Dieu accomplira dans votre vie et dans la mienne tout ce qu'il a promis et qu'il un jour nous recevra auprès de lui. Et Paul dit, un jour je passerai l'éternité auprès de Dieu. Un jour je quitterai cette demeure temporaire pour avoir une demeure éternelle, non pas parce que je le mérite en moi, non pas parce que moi j'ai tant travaillé pour le Seigneur, non pas parce que j'ai fait quoi que ce soit pour cela, mais simplement parce que Dieu l'a préparé. Et parce que c'est Dieu, voilà d'où vient notre confiance. Du moins, d'où vient, voilà, la confiance de Paul. Et dans ce verset 6, nous sommes donc toujours pleins de confiance parce que Dieu est à l'œuvre. Il nous a donné l'esprit, il nous montre qu'il va accomplir tout ce qu'il a promis. Alors verset 6 continue en disant, nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas encore auprès de Dieu, nous ne sommes pas encore parfaits. Mais le Saint-Esprit est là pour nous montrer, malgré les obstacles, malgré le péché qui vient dans notre vie, malgré notre insuffisance, malgré notre hésitation, le Saint-Esprit est là pour nous rappeler, ah, tu es enfant de Dieu. Et Dieu, un jour, te transformera. Et bien sûr, c'est là où intervient le verset 7. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Imaginez-vous s'il fallait toujours des preuves visibles de ce que Dieu fait. On serait bien mal, n'est-ce pas? Parce que, reconnaissons-le, nous ne voyons toujours pas avec nos yeux physiques lorsque Dieu est à l'œuvre. N'est-ce pas? Parfois, on regarde autour de nous et on se dit, mais Dieu, où es-tu? Il semble être absent par moments. Mais Dieu, pourquoi est-ce que tu n'as pas empêché telle ou telle chose? Dieu, pourquoi est-ce que tu n'as pas guéri un tel? Pourquoi est-ce que tu n'as pas... Et là, on pourrait multiplier les exemples. Et Paul dit, bah, nous marchons par la foi. Et nous ne voyons pas non plus tout ce que Dieu prépare pour nous pour l'avenir. Qui connaît le ciel? Ben, personne sur la terre. Comment est-ce que nous savons que Dieu prépare un lieu pour nous? Comment est-ce que nous savons qu'il y a la perspective de l'éternité avec Dieu? Parce que nous l'avons vu avec nos yeux physiques? Non. C'est par la foi, parce que c'est révélé dans la parole. Et Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Pas à pas, nous avançons avec Dieu. Et c'est là où il répète au verset 8, nous sommes pleins de confiance. Nous sommes pleins de confiance. Pourquoi ? Parce que Dieu est à l'œuvre, parce qu'il ne nous laisse pas seuls et parce qu'il prépare un avenir extraordinaire pour nous. Et Paul dit, nous sommes pleins de confiance que cet avenir, il est assuré. Il continue dans le verset 8, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. La confiance que Paul explique ici, c'est concernant un endroit qu'il n'avait jamais vu. Un endroit dont il avait entendu parler, puisqu'il avait connaissance sûrement au moins d'un des évangiles. Il avait une révélation de la part de Dieu, en effet. Mais c'était un endroit qui était totalement différent de ce qu'il connaissait. C'était un endroit qu'il ne pouvait pas voir avec ses yeux physiques, qu'il ne pouvait pas toucher avec ses mains. Mais il dit, moi j'ai cette confiance et cette confiance que Dieu prépare toutes ces choses me pousse à vouloir plus être dans cet endroit-là que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais expérimenté, que ce monde que je vois, que je touche, que j'expérimente aujourd'hui. Quelle perspective! Et Paul dit, voilà notre confiance. Elle n'est pas en nous, elle est en Dieu. Et Paul dit, lorsque nous quittons ce corps, eh ben, nous sommes auprès du Seigneur. Pas d'incertitude, pas d'intermédiaire. L'idée de purgatoire n'existe pas dans la Bible. C'est une invention venant des livres apocryphes qui a été ensuite transmis par l'Église catholique. L'existence du purgatoire n'est pas dans la Bible. Soit on est dans cette vie, soit on est dans l'éternité auprès de Dieu ou dans les souffrances. Il n'y a pas un troisième endroit. Paul dit ici, cette confiance, c'est que je vais aller auprès de Dieu. Mais encore une fois, verset 9, Paul revient un peu sur terre, parce qu'il soupire après l'avenir, il soupire après la gloire. Il dit, j'aimerais tellement mieux quitter ce corps de mort qu'il appelle à un moment donné dans Romains, ce corps tellement dur, cette vie avec tous ses problèmes. J'en peux plus, dit Paul, je veux être avec le Seigneur. Mais je n'y suis pas encore, alors j'attends. Je continue de faire confiance à Dieu. Et parce que je suis dans cette vie, verset 9, c'est pour cela. Parce qu'un jour, on sera auprès de Dieu. Parce qu'un jour, Dieu va examiner nos œuvres. Parce que Dieu a quelque chose pour nous de faire aujourd'hui. Nous nous efforçons de lui être agréable. Paul n'était pas là, être assis, les bras croisés, en se disant, mais quand est-ce que le Seigneur reviendra? Je voudrais tellement être auprès de lui, que les autres fassent ce qu'ils veulent, mais moi, bon, j'attends le Seigneur. Voilà. Non. Paul s'efforçait, et le mot, il est assez fort. Il met tous ses efforts. Paul, c'était jamais quelqu'un qui faisait quelque chose à moitié. Paul était à fond dans tout. Il dit, nous nous efforçons. Nous mettons tous nos efforts. Nous allons jusqu'au bout de lui être agréable. Et c'est là où nous nous posons la question, est-ce que c'est ça notre optique aujourd'hui? Face à la dureté de la vie, face à cette perspective glorieuse, encourageante, que nous passerons l'éternité avec Dieu, un jour, est-ce que notre attente nous pousse à être agréable à Dieu dans tout ce que nous faisons? Est-ce que je peux dire aujourd'hui que je suis agréable à Dieu? Dans l'absolu, nous pouvons, parce que si nous sommes sauvés, bah, Dieu nous voit juste à travers Jésus-Christ. Mais dans nos actions de tous les jours, est-ce que je suis agréable à Dieu? Il serait bien de prendre l'habitude, au cours de la journée, de se poser cette question: et si Dieu venait à se présenter devant moi, qu'est-ce qu'il penserait de ce que je dis? Qu'est-ce qu'il penserait de ce que je fais? Qu'est-ce qu'il penserait de ce que je regarde? Qu'est-ce qu'il penserait de ce que j'écoute? On est dans la voiture, seul. Dieu, là, il se présente à côté de nous en tant que passager. Est-ce qu'il s'agripperait au siège en disant « Mais qu'est-ce que tu fais rouler comme ça ?» Ou est-ce qu'il serait serein? Si on allume, j'allais dire si on allume la radio dans la voiture, mais ça, on le fait presque plus. Mais ce qu'on écoute dans la voiture, ce qu'on écoute à la maison, les endroits où nous allons, nos interactions dans la famille, nos interactions avec des inconvertis, nos interactions entre frères et sœurs, est-ce que, selon comme Paul dit dans ce verset, nous nous efforçons d'être agréables à Dieu? Et pour être honnête avec vous, je ne le fais pas toujours. Et soyez honnêtes, vous ne le faites pas non plus. Mais voici ce vers quoi Paul, lui, il tendait. Certes, il avait la perspective de passer l'éternité avec Dieu. Et il soupirait après ça. Il attendait tellement cela. Il se dit, mais c'est tellement mieux. Mais Dieu me donne ce temps-là sur la terre. Je vais en profiter un maximum, non pas pour mes plaisirs à moi, personnels, mais de me rendre agréable à Dieu en toutes choses. Et c'est un combat. Si Paul parle ici de s'efforcer de lui être agréable, cela veut dire que ça ne vient pas naturellement. Dans mes interactions de tous les jours, être agréable à Dieu n'est pas toujours la première chose qui nous vient à l'esprit. Et honte à nous pour cela. Mais c'est la réalité. Et ça doit changer. Paul dit, nous nous efforçons de lui être agréable. Quand je me lève le matin, est-ce que ma pensée va vers cette idée, je veux être agréable à Dieu aujourd'hui? Ça passe par une connaissance de la Bible. Comment savoir si on est agréable à Dieu ou pas? Eh bien, c'est parce qu'on est proche de sa parole. C'est parce qu'on est en communion avec lui. Cela sous-entend que nous laissons Dieu nous reprendre. Cela sous-entend que nous sommes d'accord avec ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Paul dit, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, peu importe ce qui nous arrive, que nous soyons agréables à Dieu. Parce que cette vie sur la terre, elle est importante, jusque dans les moindres détails, parce qu'elle vient de Dieu. Parce que nous aurons à rendre des comptes devant Dieu pour comment nous aurons vécu notre vie. Et parce que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Parce que c'est aujourd'hui où nous avons la possibilité de faire ça. Un jour, ce sera trop tard. Un jour, nous ne pourrions jamais faire comme nous faisons ici sur la terre. Alors aujourd'hui, ce qui doit préoccuper notre esprit n'est pas forcément la rentrée, bien que, bon, ça a une grande place dans notre esprit, et il faut préparer cela, cela est juste. Ce qui doit préoccuper notre esprit, c'est comment est-ce que je peux être agréable à Dieu jusque dans les moindres détails de ma vie. Il n'y a pas d'aspect de ma vie que ceci ne touche pas. Ça touche tout, 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 tout. Chaque jour, d'avoir cette pensée. Et Dieu peut nous aider à le faire. Ça passe par des petits progrès, jour après jour. Mais première étape, premier pas, c'est de reconnaître que Dieu, ici, nous parle à travers sa parole. Et de dire, aujourd'hui, Dieu, je prends cet engagement. Tu me donnes la vie. Dieu donne la vie à tous ceux qui sont ici dans la salle. Que je sache, vous n'êtes pas morts. Bien, rassurez-moi à ce niveau-là. Vous n'êtes pas morts. Bien. Vous avez la vie. Elle vient de Dieu. Vous allez rendre compte devant Dieu un jour. Prenons cet engagement. Aujourd'hui, je veux être agréable à Dieu en toute chose. Et je vais m'efforcer par la puissance de Dieu de le faire. Mais nous avons besoin de son aide. Alors, nous allons demander cette aide dans la prière aujourd'hui, que Dieu nous aide par sa puissance. Prions. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous voyons ce que tu attends de nous. Cela est au-delà de nos forces en nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide. Sans ton aide, nous allons tout droit vers l'échec. Que tu nous aides par ton esprit que tu as mis en nous si nous sommes un de tes enfants. Que tu nous rendes capables de t'être agréable en toutes choses pendant cette vie que tu nous donnes sur la terre. Que tu nous donnes cette perspective éternelle qui nous aide à agir comme toi, tu le veux, aujourd'hui, dans tous les aspects de notre vie. Tu es si grand, tu as tout préparé pour nous et nous demandons ton aide pour ce jour, pour ces instants ici, pour cet après-midi, pour cette semaine devant nous. Seigneur, que ta puissance soit manifeste dans notre vie. Rappelle-nous ces choses, nous sommes si promptes à oublier. Rappelle-nous, Seigneur, fais revenir dans notre esprit ces versets. Qu'il soit évident que tu es à l'œuvre, Seigneur, qu'il y ait des témoignages, même cette semaine, où toi, tu es intervenu, tu as soutenu, tu as rendu capable d'être agréable à travers cette semaine. Que cela soit manifeste, et que parce que ça vient de toi, que tu puisses recevoir toute l'honneur et toute la gloire. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous attendons d'être avec toi pour l'éternité, mais nous attendons avec une pleine confiance aujourd'hui que tu agisses, que nous soyons soumis à toi, te laisser agir en nous. Et Seigneur, que tu puisses être glorifié à travers cela. En ton nom. Amen.